Je vais donc essayer aujourd'hui d'exposer une partie de ma recherche, merci, sur les coachs et le développement personnel islamique. Alors, qu'est-ce que c'est que les coachs et le développement personnel islamique ? Peut-être une illustration tout à fait concrète. Il se trouve que hier soir, en rentrant à la maison, j'ai renversé un verre d'eau sur le clavier de mon ordinateur, et ça peut être certifié par l'informaticien qui m'a beaucoup aidé, merci monsieur, à récupérer mes documents juste là maintenant. Et si dans ce désarroi j'avais voulu contacter un coach islamique, eh bien, que m'aurait-il répondu ? Il m'aurait répondu que d'abord, c'est génial ce qui m'arrive, c'est absolument pas une catastrophe, parce que ça va être le moyen et l'opportunité de me dépasser. Ça va être le moyen et l'opportunité de ne pas compter sur une présentation écrite et d'avoir à réécrire à 5h du matin ma présentation manuscrite. Et donc, voilà, ça va faire appel en moi à des compétences insoupçonnées. Il m'aurait aussi répondu, sans doute, ne le raconte pas, parce que de toute façon, personne ne va te croire. Et d'autre part, la relation que tu as dans les épreuves que tu traverses doit être orientée vers Dieu et vers Dieu uniquement. C'est Dieu qui va faciliter tes épreuves et absolument pas tes pères. Et puis, j'aurais pu lui dire, mais comment je vais faire parce que j'ai une écriture manuscrite absolument incompréhensible, donc ça va être difficile pour moi de relire mes notes, ce qui est le cas. Et il m'aurait sans doute répondu, mais c'est génial, en fait, c'est aussi l'occasion pour toi de travailler sur ton écriture manuscrite. Tu ne te serais jamais rendu compte de ce défaut ou de ce manquement, et c'est l'occasion. Donc maintenant, tu vas prendre des décisions et tu vas agencer un programme où tous les jours, tu vas essayer de travailler sur ce point particulier et de rendre ton écriture manuscrite plus compréhensible. Donc, toutes choses étant égales par ailleurs, voilà un petit peu à partir d'un exemple personnel au-delà de la dimension expiatoire de ma confession, ce qu'aurait pu me répondre un coach islamique. Alors, quand je parle de coaching islamique et de développement personnel, un petit peu de contexte et de cadre théorique d'abord. Ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est que dans l'émergence de cette population, qui est assez récente, somme toute, en Europe et aux États-Unis, mais aussi dans certaines parties du monde musulman, comme la Malaisie, comme l'Égypte aussi, mais de façon moins importante, eh bien, c'est une nouvelle focale sur les modes de l'islam engagé. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on a une focale sur la mobilité sociale, comme étant au cœur des stratégies des musulmans qui se pensent être des musulmans engagés. Quand je parle de musulmans engagés, je parle de musulmans pour qui la référence islamique doit être placée au cœur de toutes leurs relations sociales, de leurs stratégies professionnelles, de leurs stratégies familiales, de la revendication de leurs droits. Et c'est ainsi que je parle de musulmans engagés. Et chez ces musulmans engagés-là, pendant très longtemps, la focale était placée sur la représentativité politique. C'était véritablement le cœur de l'acquisition d'un certain nombre de droits et de défense des musulmans à travers un militantisme associatif et un dialogue avec les institutions publiques. Eh bien, ces coachs islamiques et ces modèles ou ces modes de développement personnel islamique apportent une autre focale, donc sur la mobilité sociale, comme je le disais, mais aussi, non plus sur l'association comme lieu d'épanouissement et de réalisation, mais sur l'entreprise et le milieu professionnel comme lieu d'activisme ou en tout cas d'action privilégiée. Et puis aussi, ça signifie pas l'abandon, mais en tout cas des processus de négociation avec les représentants des pouvoirs publics, mais un repli sur une négociation intrapersonnelle et privée dans le monde de l'entreprise qui est beaucoup plus aisée et qui semble être beaucoup plus prometteuse que la négociation avec les représentants des pouvoirs publics. Alors, là, très concrètement, mon argument principal, c'est que cet nouvel esprit de l'islam engagé à travers le développement personnel, l'occupation des sphères économiques en tant que musulman, ne se substitue pas aux anciennes formes d'islam engagé à travers l'association, mais elle les complémente, elle s'y juxtapose, et elle signe là une pluralisation importante des modes de mobilisation et des répertoires d'expression de l'islam engagé qui me paraît extrêmement intéressante. Et notamment parce que c'est une position réflexive vis-à-vis d'un environnement qui change, où l'économique, semble-t-il, pour ces usagers-là, prime sur l'espace politique, ou en tout cas est plus facile d'accès. Et donc cette dialectique du développement personnel et du coaching islamique s'adapte aussi à des nouvelles normes de pouvoir et à un nouvel environnement au sein desquels évolue le musulman. Alors, ce n'est pas nouveau d'être un musulman actif. Être un musulman actif, c'était déjà recommandé par d'autres formes d'islam engagé. Mais être un musulman positif, être un musulman productif, est un lexique et vous donne une idée du vocable qui est utilisé pour illustrer le coaching islamique et le développement personnel islamique également. Alors, il y a trois véritablement arguments ou trois dynamiques que j'ai pu délimiter et qui sont aussi au cœur de mes arguments. La première, c'est que d'abord, on peut être un meilleur musulman grâce aux outils du coaching traditionnel. Alors, il y a deux effets. C'est bien entendu la sécularisation de la norme islamique parce que on va chercher dans le coaching traditionnel de type occidental disponible sur différents supports un moyen de devenir un meilleur musulman, mais ça a aussi un impact fondamental sur la redéfinition des relations d'autorité puisqu'on a en face de soi un coach et non plus un imam ou un shirk ou un alim, un savant. Et donc, être un meilleur musulman grâce aux outils du coaching amène, je le disais, donc à une redéfinition du corpus de la norme islamique. J'expliquerai comment, en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve, et une personnalisation des stratégies et une désinstitutionnalisation des relations d'autorité. Le deuxième challenge ou défi auquel permet de répondre le coaching islamique, c'est d'être un meilleur professionnel grâce à l'islam. Et donc, c'est un peu la dynamique inverse, ou en tout cas en miroir de celle qui consiste à être un meilleur musulman grâce au coaching. Être un meilleur professionnel grâce à l'islam, c'est faire en sorte que le succès personnel dresse de nouvelles frontières et permette principalement de surmonter les espaces discriminants du type public-privé, laïque-séculaire, halal-haram, etc., là où le monde de l'entreprise, finalement, créer de la richesse, c'est pouvoir devenir important au-delà de son affiliation islamique et du cadre justificatif, par exemple, séculier ou de la situation minoritaire des musulmans que l'on peut retrouver en Occident. Troisième point qui me semble important, c'est que ce focus sur le développement personnel et la conquête des sphères économiques permet là aussi de réinventer l'esprit de l'islam engagé qui consiste finalement en deux choses principales. La remise au centre de la norme et de la référence islamique, la remise au centre de l'espace public, des échanges avec les acteurs, des échanges entre les acteurs. Et deuxième point, la défense des droits des musulmans, notamment dans un contexte minoritaire. Donc, finalement, grâce au coaching islamique et au développement personnel, la possibilité de s'afficher en tant que musulman dans une position centrale au sein de l'espace public semble plus prometteuse et plus facile. Alors, pour rentrer dans le vif de la présentation, je vais essayer de vous expliquer qui sont les coachs islamiques, comment ils travaillent, quels sont leurs outils, quelles sont leurs méthodes, quel est leur public aussi, ou quels sont leurs publics, et puis reprendre les deux éléments qui me semblent les plus importants. Comment est-ce qu'on peut devenir un meilleur musulman grâce aux outils du coaching, et comment est-ce qu'on peut, d'une autre façon, devenir un meilleur professionnel grâce à l'islam. Et puis en conclusion, je me poserai la question de la viabilité, de la cohérence de ces méthodes-là en termes de réinvention véritable de l'islam engagé. Alors, ces coachs, qui sont-ils ? Alors, d'abord, il y a pléthore de productions anglo-saxonnes. Il y a également quelques coachs que l'on peut retrouver dans l'espace francophone, mais c'est principalement une production anglo-saxonne, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'atteint pas les musulmans francophones, puisqu'il y a une circulation des savoirs et des supports qui fait que ce qui est produit au Canada par un coach islamique peut être tout à fait consommé par un jeune musulman égyptien ou maghrébin, la barrière de la langue étant de moins en moins un obstacle. Ils sont souvent issus, contrairement à ce que je pensais, j'avais commencé ce terrain en me disant mais ça va tous être des anciens militants associatifs reconvertis, et en fait non, de façon très intéressante, ils sont souvent issus de professions relationnelles. Alors soit ce sont des gens qui sont diplômés, qui ont fait des écoles de commerce, qui s'occupaient en France par exemple, j'ai rencontré quelqu'un qui s'occupait de suivre des jeunes et de les conseiller au sein d'une mission locale, donc de conseiller des jeunes jeunes principalement de banlieue dans l'accès au marché du travail. Mais leur particularité, c'est quand même de s'afficher en tant que musulmans volontaires, réislamisés au bout d'un moment. Et ils prônent tous, en tout cas ils expliquent tous, qu'ils ont suivi une formation plus ou moins longue en sciences islamiques. D'où leur capacité à adapter les outils du coaching traditionnel sur le plan de la norme islamique. Alors ils se définissent effectivement comme coach, mais aussi comme thérapeute, comme psychologue, comme consultant, comme formateur, comme mentor parfois. Et on peut les retrouver, alors un petit peu dans l'espace francophone, plus dans l'espace anglo-saxon et anglophone, lors de conférences. Par exemple, la dernière conférence du Bourget en France, le dernier rassemblement du Bourget, a mis pour la première fois à disposition des visitants des coachs islamiques, des psychothérapeutes qui étaient censés accueillir les doléances du public, et ça a rencontré un succès énorme, bien plus que le traditionnel espace réservé à l'émission de fatwa ou de fatawi. Et donc, on peut aussi les rencontrer lors de soirées de networking organisées par des associations de professionnels musulmans qui pullulent et qui sont de plus en plus importantes et qui sont aussi un terreau favorable à l'émergence de ce type de coach islamique. Mais principalement, leur activité se situe sur Internet. Et donc, ce sont principalement des sites Internet personnels sous forme de blogs qu'ils mettent en ligne, où là, ils proposent du consulting par téléphone, par Skype, qui est d'ailleurs souvent payant, et ils proposent aussi un certain nombre d'outils, et en ça ne se différencient pas véritablement des autres coachs dits non islamiques. Ils proposent aussi, voilà, les outils classiques du coaching, des e-books gratuits qui vont rassembler leurs conseils pour être le plus productif possible. Ils proposent aussi un suivi en termes de newsletter, et là, il y a la même dynamique, la même volonté de déclencher une dynamique volontariste de la part de l'usager, puisque vous pouvez recevoir des emails avec comme objet « je peux vous aider »,« j'ai le secret de la réussite en islam », ou bien « plus que 3 jours avant le dernier email, profitez-en », etc. Donc l'intérêt ici, c'est que la dynamique volontariste en tant que musulman est particulièrement importante et significative. J'expliquerai pourquoi ensuite. Leur public, ce sont principalement des jeunes étudiants, mais je disais, il y a une circulation importante et c'est difficile de faire une sociologie de la réception de toute façon lorsqu'il s'agit de supports de sites Internet. Mais il faut faire en tout cas une différence entre l'utilisation de ces méthodes en termes d'autoréférentialité, c'est-à-dire pour pouvoir utiliser dans sa vie quotidienne ce qui est proposé par le coaching islamique, et puis ceux qui passent la barre et qui véritablement suivent ces séminaires ou webinaires tels qu'ils sont organisés sur Internet. Alors leurs termes, je pourrais les diviser en deux thématiques principales. D'abord, l'organisation personnelle. Et là, il s'agit de la maîtrise des réseaux sociaux, de la gestion du temps, de la définition des objectifs, etc. Et puis un deuxième volet qui est beaucoup plus sur l'empowerment, donc vraiment sur la capacité des musulmans à devenir de meilleurs musulmans ou de meilleurs professionnels. Et là, il y a un gros focus sur l'estime de soi, la confiance de soi, et on le comprend pour une communauté qui se sent marginalisée souvent, mais aussi sur la santé, faire du fitness parce que c'est bon pour un corps sain, dans un esprit sain, etc. Mais aussi sur les problèmes de couple ou sur la dépression, où par exemple, je me souviens avoir assisté à un webinar, donc un séminaire sur Internet qui se situe en plusieurs volets, contre l'addiction à la pornographie chez les musulmans. Et donc là où l'espace normatif entre guillemets traditionnel en opposition à l'espace normatif contemporain, c'est-à-dire celui qui se fait aujourd'hui dont je parle ici, eh bien la pornographie était quelque chose vécu comme un péché et une responsabilité individuelle du croyant à s'en détacher. Eh bien là, il y a une prise en charge de cette thématique de façon plus ou moins inhabituelle, plus ou moins inédite, et on incite le musulman à voir la vérité en face, à reconnaître son addiction, et on lui propose des outils pour justement se sortir de cette addiction qui, selon le coach en l'occurrence, représenterait l'une des addictions les plus importantes dans le monde musulman et pour les jeunes musulmans, et y compris pour les jeunes musulmans en Occident. Alors, comment est-ce que le coaching permet d'être un meilleur musulman grâce aux outils comment le coaching permet d'être un meilleur musulman? Alors, d'abord, ça incite à être la meilleure version de soi-même. Et quand on est... Décidément, il y a un sort sur un... Et c'est moi. Alors bon, mais vous au moins c'est sur la feuille, c'est pas sur l'ordinateur. Donc, ça incite à être la meilleure version de soi possible. Et être la meilleure version possible de soi en tant que musulman, eh ben, c'est tout simplement la même dynamique de réislamisation, d'engagement volontaire, sauf que là, il ne suffit plus de, pour reprendre la formule consacrée, de rentrer dans le dîn, comme l'ont souvent exprimé tous les jeunes réislamisés avec lesquels j'ai fait des interviews depuis très très longtemps, merci. Il ne suffit plus de rentrer dans le dîn, mais il faut aussi être fidèle à son caractère de musulman. Donc il faut améliorer sa carrière de musulman de manière introspective. Donc en termes de réinterprétation des normes, ça donne par exemple la sourate l'Asr, celle qui parle de temps, va être utilisée pour inciter le musulman à optimiser son temps de la meilleure manière possible. La doua qui consiste à demander à Dieu d'être soulagé de la tristesse et de l'affliction va devenir un outil contre la procrastination. La salat al-fajr, donc la prière obligatoire du matin, mais que peu de musulmans respectent, va devenir un moment productif, un pic productif par excellence, puisqu'on va être le musulman qui va être capable de se lever tôt. Et donc l'idée, c'est d'être pas juste de porter le hijab ou de faire la prière parce que c'est obligatoire, donc pardon le voile, mais d'être bien dans son hijab, c'est le titre d'un site internet, en l'occurrence de coaching, d'être bien dans sa prière, en adéquation avec soi-même, d'être un bon musulman parce que ça fait du bien. Principalement. Alors, d'ailleurs, les noms des sites, Super Muslim, Working Muslims, Productive Muslims, Successful Muslims, etc., donnent une idée de cette injonction à être le meilleur musulman possible, et en ça, ne se détache pas des dynamiques de l'islam engagé. Comment est-ce que ces outils permettent d'être un meilleur professionnel grâce à l'islam ? Alors d'abord, ils instaurent un nouveau modèle de leadership, c'est-à-dire qu'il faut trouver un job halal dans un environnement halal. Et si ce n'est pas possible, eh bien, il faut faire un effort pour essayer de halaliser son environnement au maximum. Alors ça peut être certaines populations qui sont visées, comme par exemple des mères musulmanes qui ont arrêté leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants et qui vont être encouragées à lancer des business sur Internet et ainsi pouvoir conjuguer de façon islamique vie familiale et vie professionnelle, parce que c'est important. La société a besoin de la contribution de ces femmes pour faire avancer la cause de l'islam et la défense des droits des musulmans. L'importance des réseaux sociaux, être influential online, être influent sur les sites internet est aussi une priorité. Et en fait, là, ce qui est très intéressant, c'est que cette insertion professionnelle, cette réussite, permet de renverser le rapport de domination, comme j'expliquais en introduction, puisqu'on décontourne les espaces, notamment pour des femmes qui portent le voile et qui se retrouvent discriminées, ou des hommes qui souhaitent porter une longue barbe, par exemple, ou faire afficher publiquement leur islamité. Et donc, voilà, créer de la richesse contre la discrimination et devenir un pôle d'attractivité est une des promesses de ces outils de coaching pour devenir un meilleur professionnel grâce à l'islam. Et de façon très intéressante dans le cas français, l'exemple de la femme qui a été licenciée de la crèche Babylou est souvent repris en parallèle avec la nomination et l'élection récente, enfin il y a à peu près un an et demi je crois, de la meilleure nounou de France. Et la meilleure nounou de France, eh ben, elle est voilée. Il se trouve qu'elle elle a un patronyme franco-français, donc elle est très certainement convertie, mais elle est voilée. Et donc voilà, les usagers disent, mais voyez, quand on est le meilleur professionnel possible, eh bien on peut renverser la discrimination, on peut renverser le rapport de domination, on peut même être élu meilleur nounou de France tout en étant voilé, il faut donc être les plus performants possibles. En guise de conclusion, j'ai essayé d'expliquer un petit peu brièvement ce que promet le coaching islamique et les méthodes de développement personnel à divers niveaux. Maintenant, est-ce qu'on peut conclure à l'émergence d'un groupe ? Est-ce qu'on peut se dire, voilà, aujourd'hui, les coachs islamiques vont remplacer les militants, etc. Alors, je ne pense pas. On peut certes conclure à la déstratification, parce qu'en fait, voilà, la déstratification interne de l'autorité islamique telle qu'elle est incluse par le coaching islamique, c'est-à-dire que n'importe qui peut être coach, il suffit de mettre un Allah par là, Mohammed par là, etc., et d'avoir un packaging islamique, n'importe qui peut être coach islamique, ça a un intérêt, puisque du coup ça rend beaucoup plus accessible cette relation d'échange entre le coach et l'usager, mais le désavantage, c'est que finalement, cette déstratification de l'autorité pose aussi la question de la certification, par exemple. Est-ce qu'il faut mettre en place des certifications de coaching islamique au même titre que la certification de la la viande, qui va définir qui peut être un bon coach islamique. Et donc ça fragilise aussi l'émergence possible d'un groupe. Est-ce qu'on peut parler d'émergence d'un nouveau marché? Non, là aussi, parce qu'en fait, lorsque sur ces sites internet, on invite régulièrement des entrepreneurs, des entrepreneuses musulmans à raconter la positivité de leur expérience, l'aspect de leur affectif, de leur réussite sociale grâce à l'islam, eh bien, on se rend compte que cet entrepreneuriat est quand même limité à des niches. C'est l'homéopathie, c'est la gastronomie orientale, c'est les voiles islamiques, etc., ou la fabrication de vêtements islamiques. Par contre, on peut tout à fait conclure, et c'est mon dernier point, qui fera tout juste une minute, on peut tout à fait conclure à l'émergence de nouvelles pratiques, puisqu'on voit comment ces méthodes de coaching et de développement personnel dit islamique, ou en tout cas adapté à la norme islamique, eh bien retravaille notamment les normes islamiques et le corpus islamique traditionnel en termes d'authenticité à soi. Et on dépasse véritablement les frontières traditionnelles du fard, du haram, du halal. On n'est plus dans le mktoub avec sa pointe de fatalisme ou en tout cas de renonciation à quelque chose qui vous dépasse, mais on est vraiment dans l'influence sur le qadar, sur sa destinée, ce qui est d'ailleurs présente dans le corpus islamique, mais qui est revalorisé par cette population. Alors, troisième point que j'évoquais, est-ce qu'on peut conclure au renouvellement du projet de l'islam engagé? Eh bien, en fait, ça va dépendre de deux choses. Ça va dépendre d'abord de la réponse des institutions et des espaces publics. Est-ce que les institutions et les espaces publics sont prêts à accepter une banalisation de ces méthodes dans les écoles, dans les entreprises, etc.? C'est beaucoup moins évident et facile en France. Et là, ce que j'observe pour l'instant, c'est beaucoup plus une duplicité en termes de gestion parallèle de deux espaces, où finalement on peut avoir un consultant qui va dire, alors voilà, moi j'ai une culture musulmane, etc., et qui va s'inscrire dans une niche de représentation ethnique, de la diversité, etc., dans le monde de l'entreprise, mais on n'a pas encore une imposition, on n'a pas encore des consultants qui arrivent et qui disent, monsieur Dumoulin, je vous ramène des normes islamiques, parce que je suis persuadée que ces normes-là en termes de coaching sont les plus performantes, et donc soumettez-vous à ces normes, etc., même si vous n'êtes pas musulman. Donc, on n'a pas une intégration de cette norme dans l'espace majoritaire. Et puis, je trouve aussi que les méthodes de coaching, en fait, ne se suffisent pas à elles-mêmes sur le plan idéologique. Elles sont toujours rattachées aux institutions, aux chouyours, etc. Mais en tout cas, elles révèlent du moins l'individualisation de la référence à l'islam engagé et sa pluralisation. Et je trouve que c'est une étude stimulante pour comprendre les processus plus larges de qualification et de réislamisation des normes classiques, que ce soit en contexte minoritaire ou pas. Voilà, je vous remercie.